Le manoir par André Theuriet. Chapitre 1er. Tristan et moi, nous venions des Bauges et nous redescendions vers le lac d'Annecy par le col de l'Échaud. Seulement, au lieu de suivre les tours et détours de la grande route, nous avions pris des raccourcis et nous cheminions un peu à l'aventure, tantôt à travers des prairies tourbeuses où fleurissaient par centaines les étoiles blanches des Parnassies, tantôt sous des châtaigneraies en pente d'où sur notre paysage de bruyants pibères s'envolaient en jetant leurs notes stridentes. De temps à autre, nous faisions halte pour contempler le paysage étendu à nos pieds, que le soleil déclinant teignait de ses plus opulentes couleurs. Les futaies moutonnantes, tantôt baignées d'une ombre violette, tantôt lustrées par-dessous d'un jet de lumière, le lac bleu et or, et sur la rive opposée, le gigantesque massif de la Tournette, profilant en plein azur ses remparts ébréchés et ses cimes aériennes toutes roses aux derniers rayons du soleil couchant. Nous fîmes si bien qu'au bout d'une demi-heure, nous nous égarâmes. Au lieu de regagner la route, nous nous trouvâmes fourvoyés au fond d'une sorte de combe verdoyante. Nous avions perdu de vue le lac et les montagnes et nous dévalions, au petit bonheur, le long d'un capricieux sentier qui nous menait nous ne savions où. Ces vagabondages hasardeux n'ont rien de déplaisant quand la journée commence, mais ils perdent beaucoup de leur charme à l'approche du crépuscule. « Impossible de s'orienter dans ce fourré !» s'exclama Tristan. « Nous n'atteindrons jamais le bord du lac assez à temps pour prendre le dernier bateau, et Dieu sait si nous trouverons un coucher. »« Tâcherons d'abord, repris-je, de sortir de ce bois enchanté et de gagner une lisière où nous pourrons voir le pays. » Nous quittons le sentier, nous escaladons l'une des pentes de la combe, et nous avons la chance d'arriver effectivement à l'orée du taillis. Mais nous n'en sommes guère plus avancés. L'horizon est toujours borné par ces moutonnements de feuillets. Seulement, parmi la verdure assombrie, nous voyons fumer au loin des toits de tuiles brunes épars dans un creux de vallon. « Il y a là-bas un village, » dis-je à mon ami. « C'est bien le diable si ce village ne possède pas un cabaret où nous trouverons un gîte pour la nuit. » En effet, au bout d'un quart d'heure, nous débouchions sur une première maison savoyarde nichée au milieu des noyers. Avec son fenil à claire-voie, sa galerie extérieure et son escalier de pierre blanche, elle avait la mine avenante. Justement, un bonhomme descendait les degrés et se dirigeait vers une fontaine qui jaillissait d'un tronc d'arbre, à quelques pas du logis. Nous nous adressâmes à lui pour obtenir les indications nécessaires. Où étions-nous? Avions-nous chance de trouver quelque part un souper et un lit? « Vous êtes, répondit le vieux, à Prégny, paroisse de Sainte-Eustache. Mais il n'y a ici ni cabaret ni auberge. » Vous pourriez peut-être pousser jusqu'au château de Mademoiselle de Prégny. Vous l'apercevrez en tournant à main gauche, au bout d'un couvert de châtaigniers. Les gens y sont bien aimables et bien offrants, et ils consentiront sans doute à vous loger. Cette hypothèse nous paraissait à nous fort douteuse, mais le soir venait, nous étions affamés, et cela nous détermina à tenter l'aventure. Nous tournâmes donc à main gauche, et nous vîmes bientôt, au-dessus des châtaigniers, pointer les toitures brunes de la demeure, dont le bonhomme nous avait vanté les habitudes hospitalières. Chapitre 2e. Ce château était simplement une gentilhommière savoyarde, un manoir au toit en auvent, flanqué de deux tourelles carrées, et précédé d'une vaste cour, séparée de l'avenue par une lourde grille de fer. Cette grille était entrebâillée, et nous pûmes pénétrer facilement dans la cour, où les chardons et les folles avoines croissaient et mûrissaient à foison. Un mur bas la séparait d'un grand jardin, et contre ce mur, à l'abri d'un houx, un vieux puits arrondissait sa margelle revêtue de touffes de scolopendre. En face, le perron étageait des marches verdies et effritées. Tout, depuis les corniches moussues du pignon jusqu'aux panneaux déjetés de la porte, criait l'abandon et la décrépitude. Le jardin paraissait plus sauvage encore. Les fraisiers avaient envahi les allées et y étalaient leurs tiges rampantes. Les plates-bandes ressemblaient au tertre d'un cimetière. Çà et là, quelques plantes tenaces avaient survécu. Asters violets, soucis aux teintes fauves, phlox à odeur automnale. Tout à travers, les pommiers, les poiriers en quenouille et les framboisiers formaient une sorte de forêt vierge. La façade qui regardait le jardin était de haut en bas étreinte par un jasmin dont quelques blanches étoiles piquetaient encore la verdure sombre. Il se dégageait de cette singulière demeure un parfum de mystère qui nous séduisait. Nous nous décidâmes à heurter à la porte. Une vieille femme coiffée d'un chapeau de paille noire vint nous ouvrir et tout en nous excusant de notre démarche, nous lui exposâmes notre requête. Elle nous dévisageait curieusement. Notre mine, sans doute, lui inspira confiance car elle finit par sourire. « Je vais consulter mademoiselle. Entrez seulement et attendez-moi. » elle nous laissa dans un vestibule dallé de petits carreaux noirs et blancs, d'où s'exhalait une moite odeur de champignons, et dont les murailles humides étaient ornées d'antiques portraits d'ancêtres. Notre attente ne fut pas trop longue. La servante apparut bientôt, tenant en main un lumignon à la mèche grésillante qui éclairait vaguement son visage ridé et comme dégrossi à coups de serpe. « Mademoiselle, reprit-elle, vous prie de l'excuser, si elle ne vous reçoit pas elle-même. Elle est en affaire avec son granger. Mais je vais vous montrer vos chambres, et je vous y apporterai à souper. » Elle nous mena au premier étage, dans une vaste pièce tendue de tapisserie qui communiquait avec une chambre à deux lits. Des candélabres Louis XV, aux bougies à demi consumées, se dressaient aux deux angles de la cheminée. La servante les alluma, tira d'un placard des oreillers et deux paires de draps, prépara tout pour notre coucher, puis alla nous chercher de quoi manger. Les bougies éclairaient à peine. L'atmosphère humide les entourait d'une vapeur semblable au halo de la lune pendant les nuits brumeuses, et les objets ne sortaient de l'ombre qu'à demi. Il semblait que ce salon, inhabité depuis longtemps, était resté dans l'état où l'avait laissé jadis le dernier occupant. Sur un guéridon, je remarquai une potiche encore pleine de plantes desséchées. C'étaient des fleurs sauvages, cueillies sans doute pendant une promenade d'automne, car j'y reconnus des eupatoires, des houppes de clématites et les débris de reines des prés. Dans une des encoignures se trouvait un chiffonnier à ornement de cuivre, et de l'un des tiroirs entr'ouverts sortaient des échaux de soie bleue, rose, orange aux couleurs passées. Un livre avait été oublié sur la tablette de marbre et un brin de jasmin marquait, en guise de signet, la lecture interrompue. Je le feuilletais. C'était un volume des méditations de Lamartine. En face de la cheminée, un piano était ouvert et sur le pupitre s'étalait un cahier de sonates de Mozart. Mais ce qui attira surtout mon attention, ce fut au-dessus du piano un pastel ovale, un portrait de jeune femme en toilette de soirée, coiffée de bandeaux plats et d'une pointe de dentelle. Le front était intelligent, les yeux bleus avaient un éclat limpide et un sourire voltigeait sur la boucle juvénile au coin retroussé. Je la signalai à Tristan, qui l'examina à son tour et insinua que c'était sans doute le portrait de Mademoiselle de Prégny. « En ce cas, dis-je, cette demoiselle ne doit pas être jeune, car en jugé par cette toilette, le pastel date du Second Empire. » Nous fûmes interrompus par le retour de la servante. Elle nous apportait dans un grand panier deux couverts, du pain de ménage, une volaille froide, du beurre, des fruits et une bouteille de vieux vin. Elle dressa le tout sur une table ronde et se retira en nous souhaitant le bonsoir. Nous nous attablâmes et tout en faisant honneur au souper, nous recommençâmes à nous entretenir de cette invisible hôtesse qui nous accueillait si hospitalièrement. Les détails de cet antique ameublement, imprégné de la poésie des choses d'autrefois, nous suggéraient toutes sortes de suppositions romanesques. Tristan persistait à penser que la mystérieuse Madame de Prégny avait dû habiter ce salon où nous étions installés. Il cherchait à constituer sa personnalité d'après le portrait au pastel, la musique étalée sur le piano, le livre favori posé sur le chiffonnier. Même en admettant que ce pastel date de 1859 ou 1860, « ce qui n'est pas prouvé, déclarait-il, notre hôtesse avait alors 20 ans à peine. Elle peut encore être aujourd'hui une charmante vieille. Elle doit surtout avoir conservé la jeunesse de l'âme. Elle aime la poésie, la musique et les fleurs, et je me sens déjà des trésors de tendre sympathie pour cette aimable fille, qui se développait comme une plante rare et délicate au fond de ce manoir sauvage. » Je n'étais pas éloigné de partager son avis. Le vieux vin de notre hôtesse nous allumait l'imagination. Nous passâmes le reste de la soirée à disserter sur son compte et nous rêvâmes d'elle au fond de nos lits douillets, dont les draps fleuraient la lavande. Chapitre 3e. Aussi, quand au matin la servante vint chercher de nos nouvelles, elle nous trouva sur pied et très désireux de voir Mademoiselle de Prégny afin de lui exprimer notre gratitude. « Mademoiselle est en bas, dans la salle, » répondit la vieille bonne. « Elle prépare le café au lait et sera très contente de vous en offrir une tasse. » Nous descendîmes avec un léger battement de cœur. La servante ouvrit la porte de la salle à manger, nous fit passer devant elle, et nous vîmes debout, près de la table, une femme d'une cinquantaine d'années, à la taille courte et rondelette, au visage coloré, avec de petits yeux gris très vifs, de grosses lèvres et des cheveux gris, relevés à la chinoise sur un front bombé. Nos traits durent exprimer une certaine désillusion, car la dame s'écria d'une voix forte et avec un accent assez vulgaire, « « Entrez donc, messieurs, vous ne me dérangez pas. »«
Mademoiselle de Prégny, dis-je un peu décontenancé, nous venions, avant de partir, vous présenter nos excuses et nos remerciements. »«
Je ne suis pas mademoiselle de Prégny, » répliqua-t-elle avec un haussement d'épaule.
« Pardon ? Où est la maîtresse du logis ?»«
La maîtresse, c'est moi. » »«
Mademoiselle de Prégny, hélas, n'est plus de ce monde. »«
La pauvre chère créature est morte il y a 10 ans, en m'instituant son héritière. » À condition que je ne changerai rien ici. J'ai exécuté fidèlement ses dernières volontés, et vous avez pu vous en apercevoir là-haut dans son salon. Tout y est resté comme au jour où elle a rendu son âme à Dieu.
Nous échangeâmes quelques mots de convenance et de politesse et nous prîmes congé.
Quand nous longeâmes de nouveau l'avenue de Châtaignier, le soleil commençait à percer les nuées. Sur l'herbe, de blanches vapeurs fumaient en rampant parmi les fûts de la châtaigneraie. On nous dit que les poétiques souvenirs de la morte s'exhalaient doucement de la terre humide et que l'âme charmante de mademoiselle de Prégny planait encore sur le cher domaine où s'était fanée sa jeunesse. Et, mélancoliquement déçus, nous redescendîmes vers le lac en emportant avec nous la fuyante image de l'hôtesse défunte qui nous avait donné l'hospitalité.
Ainsi s'achève Le Manoir par André Theuriet.